content d'être ici. Ça fait toujours, tantôt tu me posais la question, est-ce que tu te considères comme encore un Onésien? On renie jamais nos racines. Donc, je suis content de vous apporter le message aujourd'hui, message peut-être un petit peu particulier. En fait, chaque message est particulier. Je crois que ce message peut s'adresser à toutes les églises, à chacune de nos vies. Un message qui brûle sur mon cœur et je me réjouis de pouvoir vous le communiquer. Je sais que tu as prié pour moi, mais j'aimerais juste me présenter aussi personnellement devant Dieu. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce privilège. Merci Seigneur pour les prières. Merci pour ton Église. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Seigneur, je te dis merci parce que tu es fidèle. On ne mérite pas, Seigneur, d'être ici. On ne mérite pas de t'adorer, on ne mérite pas d'être sauvé, on ne mérite absolument rien et pourtant tu nous donnes tout. Et même au-delà, puisque tu nous accordes en plus la possibilité de te servir chacun avec nos façons, nos talents, nos personnalités, les appels que tu as sur nos vies pour les uns et les autres. Seigneur, je veux te dire merci pour ta grâce. Merci pour ta parole qui a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui. Et même si elle peut prendre aujourd'hui un format d'iPad électronique, c'est quand même encore et toujours ta parole. Seigneur, je veux te dire merci parce qu'elle a franchi toutes les générations et les feux de la persécution. Et Seigneur, je te remercie pour la puissance de ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre encore aujourd'hui. Seigneur, dans nos vies, Seigneur, tu sais mieux que quiconque quels sont nos besoins. Quels sont les besoins de ton Église? Quels sont les besoins d'Aunay, de cette ville de Genève? Tu connais, Seigneur, les cœurs. Seigneur, cette parole que je m'apprête à partager aujourd'hui, alors qu'elle n'est pas nouvelle à nos oreilles, nous la connaissons, nous l'avons lue. Seigneur, c'est simplement quelques propos qui sont sortis de ta bouche. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de pouvoir la communiquer comme si c'est toi qui la communiquerais en personne, Seigneur Jésus. Seigneur, prends la place qui te revient dans ce lieu. Je prie que Philippe disparaisse maintenant. Seigneur, que tout ce qui est de l'ordre de l'humain disparaisse au nom de Jésus plus que jamais. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit prenne le relais. Je prie que ta parole, Seigneur, puisse descendre dans nos cœurs comme elle est descendue dans le mien, qu'elle puisse encore m'impacter alors que je m'apprête à la communiquer. Je veux être le premier à être impacté encore et encore, Seigneur, par cette parole de vie, cette parole d'espoir, cette parole de vérité, ta parole. Je prie, Père éternel, ouvre les cieux, Seigneur, dans nos vies. Ouvre les cieux sur cette église. Ouvre les cieux, non pas sur cette soirée, mais sur cette église d'on est. Et chaque église qui se réclame de ton nom, viens, Père, et manifeste ta présence au milieu de nous. Réveille-nous, rappelle-nous qui tu es. Rappelle-nous qui nous sommes en toi. Seigneur, que tout ce qui est mort en nous prenne vie. Que tout ce qui est découragement en nous reprenne vie. Une vie de courage, une vie de foi. Que quiconque dans ce lieu est rentré avec des fardeaux, avec, comme nous l'avons entendu, peut-être des peurs, des pierres devant, nous ordonnons maintenant à tout ce qui ne vient pas de toi dans nos pensées, dans nos émotions, au nom de Jésus, de s'en aller. Et je prie pour un libre passage de ta parole divine qui a été inspirée et nous avons chanté, nous l'avons déclaré, tu es vivant, le tombeau est vide et Seigneur, pour ton Église, tous les jours c'est Pâques, parce que tous les jours tu es vivant et tous les jours ce tombeau est vide est venu habiter nos vies. Alors je prie Père maintenant, prends la place qui te revient et glorifie ton nom. Glorifie-toi, glorifie-toi Seigneur, saisis-nous Jésus, purifie nos cœurs, purifie nos vies, Amen, Amen. À quoi ça sert? C'est le titre du message. À quoi ça sert? Je vais vous lire le texte biblique que nous connaissons très bien, Matthieu chapitre 5, quelques versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? La question du jour. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Je ne rentrerai pas dans les détails de l'utilité du sel. Il paraît, je n'ai pas été vérifié, mais il paraît qu'il y aurait 14 000 usages différents à partir du sol. C'est quand même pas rien, approximativement. C'est quand même intéressant de savoir que les premiers salaires des Romains étaient en sel. Et quand j'ai appris ça, ça m'a percuté. Et lorsque j'ai appris que les premiers salaires des Romains étaient en sel, en quantité de sel, d'où le terme d'ailleurs « salarium », qui a donné le mot « salaire » pour nous aujourd'hui. J'aime maintenant cette idée, quand on sait que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et j'aime alors que Jésus dit « vous êtes le sel de la terre », sachant qu'il fut une époque dans une certaine région, les Romains, Rome avait leur salaire en sel. Je me dis, le salaire de la croix, c'est son Église. Yes, oh yes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai beau être pasteur, parce que des fois on dit « oh, pasteur, vous savez, peut-être qu'ils sont dans une autre planète », mais je suis content d'avoir mon salaire. Je n'ai pas été pasteur tout le temps. Des fois, j'étais pasteur, travaillais à côté, il y a eu toutes les versions. Mais j'aime avoir mon salaire. J'attends mon salaire. Est-ce que vous attendez votre salaire à la fin du mois ou deux semaines? Je ne sais pas quand vous avez payé. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui dit « ah non, moi, je suis trop spirituel. Je laisse passer mon salaire. » Ou « je ne suis pas pressé. » Non, ce n'est pas vrai. Et je crois que Jésus est en train de nous dire, d'une certaine façon, est en train de nous dire cette génération, elle est comme ceux et celles qui attendent leur salaire à la fin du mois. Elle attend mon Église. Nous sommes leur récompense. Nous sommes la plus grande richesse pour ceux qui nous entourent. Nous sommes le sel de la terre. Wow! Trois fonctions générales. Il y en a, comme je vous ai dit, il y en a 14 000 environ, mais on sait que le sel servait à préserver les aliments, à lutter contre la corruption des denrées, servait aussi à guérir, peut-être même encore aujourd'hui, à évidemment à donner du goût. Évidemment. Chimiquement parlant, alors j'ai aucune connaissance dans le domaine, mais il semblerait que techniquement parlant, chimiquement parlant, le sel ne peut pas se dénaturer. La question est si le sel perdait sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on sa saveur? Il semblerait que chimiquement le sel ne peut pas se dénaturer au point de perdre sa salinité. Il semblerait aussi que le sel qui provenait de la mer morte pouvait potentiellement perdre sa saveur au contact de l'humidité du soleil parce que les propriétés n'étaient pas assez stables. Bref, et ce sel devenait insipide et juste être bon à jeter sur les dalles du temple pour que les gens ne glissent pas. Je dis il semblerait parce que je sais qu'il y a plusieurs études qui sont faites, plusieurs points de vue, et je ne vais pas m'arrêter trop longtemps là-dessus, mais en fait, je ne crois pas que c'est la question qui nous préoccupe. Je ne crois pas que c'est la question qui préoccupait Jésus, à savoir si chimiquement le sel perd de sa saveur. Je crois que le Seigneur veut se servir de cette image pour nous lancer un message. Et bibliquement parlant, et même pratiquement parlant, nous connaissons tous des personnes autour de nous, et dans la Bible on en voit, des gens qui ont bien commencé leur course dans la foi et qui l'ont mal terminée. Pour toutes sortes de raisons, je ne suis pas en mode jugement. Il y a des blessures, il y a des choses même légitimes, et voilà, des coups durs, et la foi finit par s'éteindre. Ce sel finit par disparaître, cette saveur finit par disparaître. Et simplement, peu importe les débats qui sont autour du fait que le sel puisse ou non perdre sa saveur, je pense que si Jésus prend la peine de poser la question, d'émettre la possibilité de « et si ?» avec quoi le salera-t-on ? Je pense que c'est parce qu'il y avait quelque chose, un potentiel de possibilité de perdre notre saveur. Il y en aurait peut-être d'autres, mais j'aimerais souligner trois façons possibles de perdre sa saveur ou sa lueur. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Trois façons possibles. Une des façons, c'est en abandonnant notre premier choix ou nos premiers engagements de suivre Jésus. Mon premier choix, c'est-à-dire Jésus est mon premier choix, c'est ma priorité. En abandonnant ma priorité de suivre Jésus, on l'a chanté, « Jésus, je te suivrai ». Je crois que c'est une façon de perdre notre saveur. En banalisant le péché dans ma vie est une façon qui risque de nous faire perdre notre saveur, notre lueur. En arrêtant, en cessant de me nourrir de la parole de Dieu, de ce livre, la Bible, je risque de perdre ma saveur. C'est important de savoir qu'est-ce qui peut nous conduire à perdre notre efficacité. Je vais aller rapidement parce que ça, c'est simplement pour qu'on puisse réaliser un peu le contexte. Il y a trois autres passages dans les évangiles où il est question de sel ou et lumière. En général, ils sont séparés, c'est soit le sel, et on va les regarder, mais je vais vous la faire courte. Luc chapitre 14, on nous parle du sel. Et dans Luc chapitre 14, je vous la fais courte, le contexte, vous prendrez la peine de regarder chez vous, j'ai mis les références pour ceci, pour cela, pour que vous puissiez vérifier. Mais en fait, Luc chapitre 14 est précédé, le contexte de ce verset-là est précédé de la condition d'un renoncement total. Hein, vous vous rappelez? Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Il doit me préférer même à son père, à sa mère, à sa sœur, à ses frères, et jusqu'à sa propre vie. Il doit se charger de sa propre croix. Sinon, il ne peut être mon disciple. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va parler du sel. Et dans ce texte-là, il y a de la part de Jésus un appel à le suivre, un appel à suivre Jésus. Donc, je peux perdre ma saveur lorsque j'abandonne mon engagement envers Jésus, lorsque Jésus n'a plus la place première par rapport à mes frères, mes sœurs et ma propre vie. Marc chapitre 9 nous parle aussi, verset 50, nous parle aussi du sel. Et ce texte, le contexte de ce texte est précédé cette fois-ci d'un ordre à se séparer de ce qui nous fait chuter. Vous vous rappelez, c'est ce passage qui va dire, si ta main, ton pied, ton œil te posent un problème, je le paraphrase pour nous aujourd'hui, coupe-le. Vous avez saisi, tous les prédicateurs font la même blague, ne coupez pas votre main. C'est pas ça, vous avez compris, vous le savez ça. L'idée ici, c'est de s'éloigner, de se séparer, de fuir ce qui est une occasion de chute pour nous, ce qui est un piège, ce qui est une vulnérabilité, ce qui est une faiblesse. Là, il y a un appel à fuir le compromis. Alors que Adam et Ève se sont laissés séduire dans le jardin d'Éden, eh bien, nous sommes appelés à fuir le compromis. Donc, je peux perdre ma saveur lorsque je banalise le péché dans ma vie. Où est-ce que nous en sommes dans nos vies? Où est-ce que j'en suis, moi, Philippe, dans ma vie? Est-ce que, après, je ne me rappelle plus combien d'années de vie chrétienne, pas loin de 30 ans, je pense, est-ce qu'il y a des choses que je tolère plus facilement aujourd'hui qu'au début de ma conversion? Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui me choquent moins comparativement à certains moments? Pour être plus concret aussi, jusqu'à aussi d'une autre façon de voir, c'est est-ce que aujourd'hui, je permets des choses dans ma vie que je n'aurais pas permis suite à la belle retraite d'église ou événement d'église on a eu à un moment donné, peut-être l'année passée, où on a pris un engagement, on était sensibilisé à la sainteté de Dieu, à la pureté de Dieu, puis là j'ai dit non, ça suffit. Et là il y a un engagement, on le tient et le temps passe. Et est-ce qu'on banalise le péché dans nos vies? J'aimerais m'enseigner simplement que le compromis moral est le germe de toute corruption. Le compromis moral dans nos vies est le germe de la corruption dans nos cœurs, corruption spirituelle. Donc on voit, on peut perdre notre saveur en banalisant le péché. L'autre passage, le dernier, le troisième et presque dernier en fait, Luc chapitre 8, verset 16, là il est question de lumière. Et là, ce texte est précédé de la parabole de la semence que j'appelle la semence criblée. Elle est criblée par le diable, par un manque de discipline personnelle et par les distractions de la vie. C'est la parabole du semeur. Les oiseaux qui viennent, à l'image du diable, dérober. Ce manque de discipline qui fait que lorsque la chaleur arrive, on manque de racines, on n'est pas enraciné, l'épreuve arrive, boum, les distractions, les plaisirs de la vie, et voilà. Et là, dans ce texte-là, il y a un appel à cultiver la parole que nous avons reçue. Donc je peux perdre ma saveur lorsque je cesse de nourrir mon âme par la parole que j'ai reçue. Donc c'est toutes sortes d'épreuves, de persécutions de la vie, et on ne tient pas, il y a des personnes qui sont balayées parce qu'ils n'ont pas pris le temps de nourrir la parole reçue. Et nous arrivons à notre texte d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 5, verset 13, sel et lumière. Là, nous voyons les deux éléments réunis dans le même verset. Qui celui-ci est précédé par les béatitudes décrivant ceux qui lui appartiennent, ceux qui appartiennent à Jésus. Précédé par heureux ceux qui... Et dans ce texte-là, il y a un appel à faire la différence. Un appel à faire la différence. Et à travers les béatitudes, Jésus, en fait, je le résume, évidemment, ce n'est pas une étude sur les béatitudes, vous l'avez saisi. Jésus relève ce qui va caractériser ses enfants. Trois choses. Ce qui va caractériser ses enfants et ce qui nous attend. Trois choses. Nous serons heureux, persécutés et récompensés. Ça résume les béatitudes. Il pourrait y avoir d'autres résumés, vous avez compris, mais c'est le résumé que j'ai choisi pour ce soir. Il est en train de dire, heureux ceux, ça sera une caractéristique de ceux qui me suivront, ils seront heureux, mais ils seront persécutés, comme je l'étais moi-même. et ils seront récompensés dans les lieux célestes. Et voilà, nous arrivons maintenant à notre texte d'aujourd'hui, « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». Pour les encourager, Jésus sait très bien qu'ils vont être persécutés, et c'est lui-même qui leur dit. Il n'y a pas d'agenda caché, il n'y a pas de fausse publicité, il dit « voici ce qui vous attend ». Et Jésus aurait pu les flatter, comme on dit au Québec, dans le sens du poil, les caresser, puis dire « mon pauvre petit, je suis vraiment désolé, mais tu comprends quand même, moi j'ai payé le prix. Si tu me suis, ben, il faut t'attendre à vivre les mêmes choses. Je suis vraiment désolé, j'aurais voulu que ça se passe autrement, mais il n'y a pas d'autre chemin. » Il aurait pu comme avoir une attitude un peu d'apitoiement sur eux-mêmes, les prendre en pitié. Mais au lieu de cela, il va leur communiquer, écoutez bien ceci, il va leur communiquer sa propre vision les concernant, nous concernant, et la vocation à laquelle il les appelle, il nous appelle. Et c'est là qu'il arrive et il dit, au lieu de mon pauvre petit, ça va être difficile, et dans les béatitudes, vous allez souffrir, vous allez être récompensé, etc. Il arrive, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et ça, c'est la propre vision de Dieu à mon égard, à ton égard, à l'égard de l'Église dont on est et de toutes les églises qui se réclament de son nom. Et là où j'aimerais que vous ne me perdiez pas dans votre concentration de ce qui suit, c'est la chose suivante. Remarquez que Jésus, je vous l'ai dit, communique sa propre vision. C'est la chose suivante. Il ne communique pas la vision qu'il a reçue du livre, du dernier livre de je ne sais pas qui, je ne mentionnerai pas de nom parce qu'il y en a tellement. Je n'ai rien contre, hein, j'en achète moi-même, je suis un passionné de livres, ma femme elle le sait. Bref, il ne communique pas la vision d'un homme reçu du dernier livre à saveur du mois, du dernier séminaire. Il ne va pas communiquer sa vision de l'Église ou de ses enfants, du dernier séminaire sur l'implantation de l'Église au 21e siècle. Non, ce n'est pas la vision de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une vision à l'américaine. Allô? Ce n'est pas une vision à l'américaine. C'est la vision de Jésus pour toi. C'est la vision de Jésus pour moi. C'est la vision de Jésus pour son Église. Il dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Ce n'est pas rien comme déclaration. On lit souvent ça un peu à l'eau de rose. Ah oui, vous êtes le sel de la terre. Non, non, c'est la vision. C'est comme ça que Dieu te voit. C'est comme ça que Jésus nous voit. C'est comme ça qu'il nous considère. Et c'est à cela qu'il nous appelle. Wow. Moi, je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai redécouvert ça, ça m'a percuté. Boum. Je dis, wow, j'ai plus besoin d'acheter de livres. Moi, j'en achète encore parce que la chair est faible. Il nous appelle, autrement dit, à faire la différence. Ça fait toute la différence, le sel dans des aliments. Même si tu n'as pas toutes les épices du Pakistan, mais si tu as du sel, au moins, tu t'en sors. Un couple pas très en moyen, nouvellement marié, peut se faire un petit repas à la chandelle avec quelques pâtes et du sel. Ça sent le vécu. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. J'aimerais dire ceci, c'est impossible de faire la différence sans être soi-même différent. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Je vais vous révéler ce soir, et là vous allez dire, alors lui il n'est pas très spirituel. Mais sûrement vous l'avez déjà remarqué. Qu'est-ce qui a donné le titre à ce message? À quoi ça sert? En fait, ce message est né lorsque je suis allé au cinéma, pas en ouvrant un livre, sur l'Église ou peu importe le sujet. Ça n'a pas été dans un temps de moments secrets. Des fois, c'est le cas, mais là, ce n'était pas le cas. Et je suis allé voir, je ne sais pas si vous avez vu ou entendu parler du film Creed 2. Je ne parle pas de film d'horreur, je parle de Rocky Balboa. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Creed 2? Bon, peut-être que je ne sais pas, mais... OK, moi, je suis allé voir ce film. Peut-être que... On a chacun nos convictions sur le film, mais moi, Rocky Balboa, c'est ma génération, même s'il est botoxé partout, ça reste Rocky. J'ai dit, Rocky, c'est Rocky, c'est un incontournable, c'est Rocky. Personne ne peut battre Rocky, même botoxé, même si tu sais que si c'est faux. Et voilà qu'il y a une scène, et je suis pas mal convaincu, J'imagine en tout cas que ce n'est certainement pas la scène que la majorité des gens auront retenue en regardant ce film. Il y a une scène qui m'a transpercé le cœur. Il sort, il est chez lui, il est un peu surélevé. Son balcon, c'est très court. Et là, il y a le nouveau détenteur en titre, le fils d'Apollon, Dennis Johnson, je pense. Puis ils sont en train de discuter. C'est une scène qui passe vite. Il fait noir dans la rue. Et là, il sort. Excusez l'imitation, mais vous connaissez pour ceux... Est-ce que vous connaissez Rocky au moins, un peu? Un petit peu, quand même, rassurez-moi. Moment de solitude. Et là, il sort, il ferme la porte. Son jeune poulain l'attend là, en bas. Puis là, il va dire ceci.
Ouais, ils ont toujours pas changé d'ampoule. Il est en train de râler. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir un lampadaire si ça éclaire pas? Puis là, il descend. Quoi ça sert? Ça fait des semaines que je les appelle. Ça fait des mois que c'est comme ça.
Et cette scène-là m'a transpercé le cœur. Ça m'a transpercé le cœur. Et ce texte-là est venu sur mon cœur. À quoi ça sert d'avoir des églises par dizaines dans la ville de Genève si on n'a pas d'impact? Et là, vous allez dire, mais t'es qui, espèce de jugeur prétentieux? On n'a pas d'impact. Mais oui, on a de l'impact. Oui, je sais. Mais, je pense qu'on peut avoir un plus grand impact que ça. Sinon, ce n'est pas le Dieu que j'ai connu dans cette église même. Je ne sais pas combien, est-ce qu'on est à Genève, 300, 500 000? 500 000, je pense, ça tourne autour de ça, même presque un peu plus. De nombreuses églises. Je n'ai pas fait l'exercice des chiffres, mais si on regarderait le nombre de chiffres en termes de population qui ne sont pas à Jésus, je pense qu'on pourrait tous se mettre à genoux puis commencer à prier, pleurer. Puis quand j'ai vu ça, Rocky, c'est bête, hein? Le Saint-Esprit, lui, il dit, okay, faut que je lui lance un message, c'est le seul moyen, il est au cinéma. Ben, il ne veut pas aller dans le lieu secret, il faut que je lui parle dans le cinéma. C'est... Et ça m'a... À quoi ça sert d'avoir un éclairage de rue si ça n'éclaire pas? À quoi ça sert d'avoir des églises si elles n'impactent pas? À quoi ça sert d'être chrétien si ça ne change rien? Alors, quand je parlais des milliers de personnes à Genève, on va resserrer le focus sur toi, sur moi, sur chacun, chacune de nous. À quoi ça sert d'être chrétien si ça ne change rien? La raison pour laquelle je vous ai lu les contextes précédents où sel et lumière sont faites allusion, ont été faites allusion, où l'allusion a été faite, c'est la raison suivante. Le sel et la lumière dont Jésus parle s'adressent toujours à ses disciples. Et je sais qu'il y a différents commentaires là-dessus, parce qu'il y a la foule. Mais il va dire que celui qui a des oreilles entend, et OK, il s'adresse à tout le monde. Mais vous lirez, vous remontrez les versets précédents et vous allez voir, c'est toujours un disciple qui ne comprenait pas quelque chose, qui intervenait, qui posait une question. Il s'adresse à ses disciples. À chaque fois qu'il y a une question. Donc, c'est un sujet qui est extrêmement sérieux. On n'est pas juste dans des caprices culinaires ou gastronomiques. C'est sérieux. J'aimerais rappeler plus que jamais, je sais que ce n'est pas nouveau, mais plus que jamais, j'aimerais rappeler que Jésus n'est pas venu faire de nous de bons chrétiens, mais de vrais disciples. Puis Philippe de la Fuente, s'il veut avoir un impact autour de lui, il va falloir qu'il arrête d'essayer d'être un bon chrétien, mais à devenir ou redevenir un vrai disciple. Ou à continuer à l'être, je ne sais pas comment est-ce qu'il me voit, mais moi, je n'ai pas encore atteint le niveau, en tout cas. J'aspire à être de plus en plus un vrai disciple, et non un bon chrétien. Jésus n'est pas venu faire de nous des bons chrétiens, politiquement corrects, poli avec un sourire évangélique affiché quand on franchit les portes d'une église. Il est venu faire de nous des vrais disciples. On parlait tout à l'heure, j'ai entendu l'annonce de transmission. Je crois qu'on a besoin de transmettre quelque chose. J'entendais quelqu'un, je ne mentionnerai pas son nom, quelqu'un de bien connu. Et je comprends le contexte dans lequel il le mentionnait, mais il a glissé la phrase suivante, qu'il y a différentes vagues qu'on suit. Il donnait... dans le milieu évangélique, il nommait différentes vagues. Et parmi ces vagues-là, il y avait faire des disciples. Et je suis devenu... Alors, je comprends que, dans le sens qu'il fut une époque où on parlait beaucoup de faire des disciples, puis là, c'est comme on a déterré une vérité biblique, et puis là, c'est comme la vérité. Un temps, c'était la délivrance. Mais j'aimerais dire que faire des disciples, ce n'est pas une vague. Ça n'a jamais été une vague. Nous, on s'est peut-être tout d'un coup, à certaines époques de l'histoire de l'Église, rappelé que c'était quelque chose d'important, mais ce n'est pas une vague. Faire des disciples, ce n'est pas une vague. C'est pas quelque chose qu'on met à la mode. C'est le cœur de Jésus. C'est pas une vague. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est son plan. Vous avez tous certainement entendu cette histoire que je raconte même pas, mais vous allez savoir à quoi je fais allusion. Où il rentre dans le ciel, les anges lui demandent, bon, c'est quoi ton plan s'ils font pas ce que tu dis? Ben, c'est quoi ton plan B? Ben, j'ai pas de plan B. Ben, ouais, mais si ça marche pas, ben moi, mon plan, c'est qu'un tel le transmette à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre. Ouais, mais si, ben, j'ai pas d'autre plan. C'est eux. Mon plan, c'est eux. C'est nous. C'est pas une vague. Je vais avancer. Jésus, prochain point, les points suivants. Jésus appelle son Église à faire preuve d'un leadership inspirant, influent et incarnant. Pour ceux qui sont frileux au terme leadership, Jésus appelle son Église à prendre un rôle, à avoir un rôle d'inspiration, et un rôle inspirant et non imposant. Un rôle qui influence et non un rôle qui entretient quelque chose. Un rôle qui incarne l'Évangile, corps, âme, esprit et tout ce qui s'ensuit, et non un rôle d'une Église qui est déconnectée de sa réalité. Quand il dit « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde », c'est ce qu'il est en train de dire. Je vous appelle à être inspirant. Je vous appelle à influencer comme la lumière influence dans la noirceur de votre chambre quand vous avez besoin de vous éclairer ou ailleurs ou d'un tunnel. À incarner, à rentrer dans les aliments, rentrer dans votre génération telle que vous êtes. C'est ça qu'il nous appelle à faire, à exercer un leadership inspirant et non imposant. Imaginez qu'ici, si j'avais été chez nous après ça, je l'aurais fait. J'aurais mis ici trois lampadaires, ou devant vous au centre. Imaginez qu'il y a trois lampadaires. Et le premier lampadaire, il est branché. Mais il n'y a pas d'ampoule. Et là, j'irais, bon, là, il est branché, ça ne marche pas, mais je vais mettre le doigt et tout. Non, mets pas le doigt. Ou j'irais, est-ce que tu veux vérifier s'il n'y a pas d'ampoule? Est-ce que tu vois, c'est du courant? Personne ne veut mettre le courant dans. Ça, c'est parfois ce que l'Église a été, ou sommes parfois même comme croyants, où on est plus imposant qu'inspirant. Et l'image ici, elle est simple. C'est que des fois, on assomme les gens à coups de Bible. Moi, je vous le dis sérieusement, j'ai des personnes dans mon entourage, amis et famille, qui soit sont en cheminement, soit en opposition, ou en indifférence. Ils veulent rien savoir de l'Évangile. Et je m'entends très bien avec. Je vous le dis très, très sérieusement, ça m'est déjà arrivé de m'organiser pour que ces personnes, ces amis proches, ne rencontre pas certaines personnes de l'Église. Je vous le dis, sérieux, ce n'est pas des blagues, sérieusement. Et je me suis même trouvé dans une situation où on déménageait, et là, j'avais un ami, puis quelqu'un arrivait, puis j'ai littéralement descendu de la voiture, j'ai klaxonné parce que je savais qu'on allait se retrouver plus loin, puis je lui ai dit, elle n'est pas chrétienne, puis on lui en a déjà parlé, fait que juste tiens sa mort. Je lui ai dit, ouais, mais quand même, il faut partager l'Évangile. Je lui ai dit, non. Je veux protéger ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, que j'ai connus, qu'il y en a toujours partout. Mais si c'est, il y en a parmi vous, alors que le Seigneur juste vous fasse réaliser. Je sais que ça part d'une bonne intention, mais c'est pas la bonne façon d'agir. Des personnes qui croisent pour la première fois un ami. Et puis commence à sortir le plan du salut en quatre points, ta 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 ta. Puis c'est la parole de Dieu. Ouais, mais c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Moi, lui, il s'en fout de ta parole de Dieu. Parce qu'il n'est pas rendu là. À moins, évidemment, je comprends qu'il y a d'autres témoignages où le Saint-Esprit, et puis là, la personne convertie, oui, je sais que ça existe. Mais ça, c'est combien de cas sur que ça arrive? La plupart du temps, ça détruit. Et là, on est comme cette ampoule qui est branchée. On a la puissance, on a la conviction, on a la passion. Ça, c'est Philippe de la Fonte. Aujourd'hui, il faut qu'il fasse encore attention, j'aurais cette tendance-là. Mais dans Nouveau Converti, j'étais ce lampadaire sans ampoule. Jésus! Mais ça fait peur, ça fait mal, ça détruit. Le sel, c'est super bon. Il y a quelques semaines en arrière, je mangeais, c'est super bon, mais je finissais mon fond de cacahuète. Puis là, tout en faisant autre chose, je regarde, Oui, les hommes parfois peuvent faire deux choses en même temps. Quoique ça va confirmer en fait la théorie, parce que la preuve que... Et là, je regarde et j'amène ma main à la bouche en pensant que je sens des petits morceaux, je suis dans le fond du sac. Mais moi, je suis sûr que c'est des petites cacahuètes, une noix de cajou, c'est le fond, c'est des tout petites. Et là, j'ai une poignée de sel, mon ami. J'ai craché. Le sel, c'est bon avec une petite pincée de sel, selon les goûts. On a tous fait la blague ou été victime de cette blague où on renverse la salière puis dans le café ou peu importe. Et parfois, on est cette ampoule, on est ce lampadaire sans ampoule. C'est à grosse dose. À coup de bip, bang! Plutôt que de prendre le temps de connaître la personne, savoir ce qu'il vit, pourquoi, comment, qui es-tu, d'où viens-tu, je comprends, j'ai vécu la même chose. Puis tranquillement, on est appelé à exercer un leadership pour avoir un rôle inspirant. Paul, à Timothée, va dire 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, je le lis rapidement pour vous, vous connaissez très bien. Il va dire que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Alors ça, c'est une des prophéties les plus réalisées. il y aura des temps difficiles ayant l'apparence, des gens auront, l'Église aura l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Paul nous informe, autrement dit, que dans les derniers jours, il va exister une forme de piété qui aura renié la puissance de la foi. Il est en train de nous dire qu'il y aura un christianisme qui aura toutes les apparences du christianisme sans la puissance du christianisme. Comme le sel qui a perdu sa saveur va garder sa coloration blanchâtre, va garder sa texture granuleuse, va garder toute son apparence, mais n'a plus de goût. Puis on va arriver dans un temps où il y a un volet du christianisme qui vont être comme ça, insipides. Un christianisme qui a toutes les apparences, des activités, des programmes. La liturgie, elle est là. Le vocabulaire chrétien, il est là. Mais il n'y a pas de puissance. Et ça, c'est le deuxième lampadaire. Ça, c'est ce lampadaire qui, lui, il a l'ampoule, mais il n'est pas branché. Il n'y a pas d'influence. Il est impuissant. Il est déconnecté. Super belle ampoule. Si j'avais une ampoule, je prends une super belle ampoule. 100 watts ou 1000 watts, ou je ne sais pas. Puissante. Bah, belle ampoule. Oh, est-ce que tu veux mon ampoule? Oh, regarde comme elle est neuve. Comme elle est belle. Belle ampoule. Belle liturgie. Beau programme. Des dogmes. Une doctrine. Oh, mes amis, une doctrine tellement bien ficelée. Solide. Solide. Biblique. Puissante doctrine. C'est un pléonasme, c'est un paradoxe, ce que je viens de dire, dans le contexte de ce qui nous tient, de ce qui nous préoccupe. Mais pas de puissance. Pas de vie de l'esprit. On arrive, belle ampoule, beau programme, belle activité. Puis, quand on arrive, c'est triste. Les croyants qui sont dans ce lieu, je n'y passe maintenant dans le lieu qu'on pénétrerait, dans ce volet-là, dans cette catégorie-là, on arrive et... Au lieu de la joie, t'as l'impression qu'ils ont bu du vinaigre. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il n'y a que de l'inquiétude. Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien ne doit jamais être inquiet. Hein. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est ce qui prédomine. C'est triste, il n'y a pas de vie. On dit des choses et c'est pas en adéquation avec notre réalité. Super ampoule, super projet, super. Mais il n'y a pas la puissance. Et le sel et la lumière sont ces deux éléments qui, lorsqu'ils rentrent en contact, produisent un résultat. Et ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Le sel donne goût aux aliments et la lumière, la couleur aux choses. Concrètement, le sel, en fait, perdre sa saveur, concrètement, c'est ne plus être dans la mission que Dieu a pour nous. Individuellement, en tant qu'Église, corporellement. Et la mission, ce n'est pas forcément sortir dans la rue ou uniquement sortir dans la rue et distribuer des traités, mais juste être ce témoignage de Christ dans nos vies. Il y a quelqu'un dans notre église, et sûrement que ce n'est pas la seule personne, vous avez peut-être déjà entendu un témoignage similaire, mais ça nous a frappé à tout le monde. Il dit, je me suis fait virer de mon boulot, et vraiment de façon cavalière. Vous savez comment c'est aujourd'hui, c'est bye bye, après 30 ans de service, c'est juste un numéro, dans beaucoup d'entreprises, ou pas généralisé. Et c'était dur. Et puis ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir le patron. Une fois qu'il a reçu son licenciement, il est revenu, je pense, quelques jours après, ou assez rapidement, puis il est allé voir, toc, toc, toc. Puis tu allais voir, il dit, je vais vous dire merci. Le patron, quand même, c'est lui qui l'a, excusez-moi le terme, l'a foutu à la porte. Quoi. Merci. Merci de quoi? Ben, je vous dis merci pour ces 30 années passées avec vous. Pendant ces 30 années, vous m'avez permis de nourrir ma famille, de partir en vacances. Puis je vous dis merci. Je pense que lorsque Jésus a vu ça, il dit, ah, enfin, ça fait du bien de voir un de mes enfants qui a compris ce que ça veut dire être le sel, avoir l'ampoule et la puissance. À contre-courant. Une réaction complètement à contre-courant. Des fois, on veut faire des méga choses pour Jésus, mais des fois, juste d'être sur le... Moi, je le vois, j'ai un très mauvais caractère, tout court, mais particulièrement en voiture. En voiture, alors là, Pasteur Phil est révélé à la lumière. À son grand, dans toute sa splendeur. Mais par contre, il y a une chose que je prends beaucoup plaisir, très souvent, c'est de laisser passer les gens. Et dans les ronds-points, c'est la guerre. Moi, le premier, des fois, je... Et souvent, j'aime le matin, je prends le temps, j'amène mes enfants à l'école, tout ça. Puis là, j'ai le temps, donc évidemment, je m'organise pour ne pas être stressé, ce qui me permet d'avoir un meilleur caractère. Et puis là, je pourrais passer, puis là, ça bloque de partout, mais là, la personne est engagée, puis je fais signe. Et là, la personne me regarde, surprise. Mais je pense que c'est une façon d'être le seul. Ah, c'est sûr qu'il ne sait pas que je suis chrétien. Et puis que... Mais mon point, c'est le suivant. Être le sel et la lumière de ce monde, c'est aller à contre-courant de ce que monsieur, madame, tout le monde fait. Ce patron, quand il voit cette personne arriver, puis il dit merci pour ces 30 années, puis il avait raison. Il avait raison d'être blessé, d'avoir été licencié comme ça, mais il était vraiment lucide de dire quand même, il n'était pas obligé, il m'a quand même gardé 30 ans. C'est une autre lecture. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui vont avoir cette lecture-là. Je connais des gens qui sont super, qui ont des super bonnes valeurs. Super, mais je pense que si ça devrait se voir parmi les personnes parmi lesquelles ça devrait se voir le plus, c'est les chrétiens. Aller à contre-courant. Et je pense, vous savez quoi? Je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer, mais je crois qu'on a besoin de se remettre en question sur l'impact qu'on a, sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'impact autour de nous. Peut-être ça va choquer, mais je suis fatigué d'entendre des personnes autour de moi, des chrétiens, juger la société dans laquelle nous sommes. Ouais, ils sont rebelles, ils sont contre Dieu, ils veulent rien savoir de Jésus, ils sont durs, c'est dur, à Genève c'est dur, ouais, Genève c'est dur, en Afrique c'est dur, au Canada c'est dur partout. Est-ce qu'on peut arrêter à un moment donné, puis dire que c'est dur partout? Non, mais sérieux, je veux dire, Jésus, est-ce que c'était dur dans sa génération? Oui, c'était dur. Hey, Jésus, c'était dans le contexte pharisien, c'était dur. Lisez les histoires de réveil, c'était dur. Et je suis fatigué parce que c'est toujours eux. Eux sont fermés, mon cousin est fermé, mon grand-parent est fermé, il est bloqué. Est-ce qu'on peut juste s'arrêter puis se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils sont bloqués? Est-ce que je fais quelque chose, dis quelque chose, agis d'une certaine façon qui fait que peut-être ça ne les aide pas à aller dans le bon sens? Est-ce que ça se pourrait qu'on fasse faux à quelque part? Ou pas tout à fait comme on devrait le faire? Ça ne remet aucunement en cause nos intentions? Parce que logiquement, là où nous sommes, alors je ne suis pas en train de dire que les gens ne sont pas rebelles, qui ne veulent rien savoir, j'essaie juste d'équilibrer la balance, vous avez compris? Parce que logiquement, quand il y a du sel, tu as envie, quand tu as un bon resto, là, ton premier réflexe, en tout cas le mien, c'est « Hey, j'ai découvert un super bon resto derrière moi, je te le dis, hey, tiens la carte de visite, je te donne son téléphone, yes, et puis j'y vais, je le teste. » Parce que c'était bon. Quand c'est bon, tu as le goût de revenir. Quand tu arrives un dimanche matin ou un samedi soir, puis que c'était bon, tu as le goût de revenir. Plus souvent qu'autrement, ça devrait être ça. Jésus, si vous avez remarqué dans l'évangile, dans les évangiles, j'ai vu jamais Jésus courir après quelqu'un. Hey, attends, viens. T'es aveugle, je vais te guérir. Viens, non, je veux vraiment te guérir. Hey, viens. T'as commis un péché, j'aimerais vraiment te pardonner. Viens, je veux que je te pardonne. Je veux te pardonner. Jamais je vois Jésus courir après. Par contre, je vois des foules qui courent après lui. Je vois des gens qui disent, entendent parler. Comment ça, il a réagi? Jésus était le sel de sa génération et la lumière de sa génération. Plus que ça, on va le voir, il était la lumière du monde. Jésus agissait à contre-courant. Là où tout le monde disait « Ah, tasse-les les petits-enfants », il dit « Laisse-les venir à moi ». Puis c'était très révolutionnaire de dire ça à cette époque-là. La femme adultère, tout le monde veut la lapider. Vas-y, t'es pardonné. Il amenait une saveur. Zachée sur son « Hey, pompon, descends. On va manger à la maison. » tout le monde était choqué. Voyons, est-ce qu'il sait qui c'est? Et là, ils disaient, waouh! Les gens n'avaient pas peur. Alors, ça, c'est un autre message. Quand Jésus arrivait, c'est soit t'aimais, soit t'aimais pas. C'est vrai, pour garder la juste proportion des choses. Mais je pense qu'on a besoin d'arrêter de pointer l'extérieur, de juger les gens, puis de nous passer sous la lumière du Seigneur. Puis dire, Seigneur, ouais. L'Église perd de son influence lorsqu'elle cesse de se remettre en question et de prendre des risques. À partir du moment où on arrête de se remettre en question, et se remettre en question, ça ne veut pas dire qu'on a faute sur toute la ligne, ce n'est pas ça. Mais si sur d'une échelle de 1 à 10, il y a 2 points à améliorer, même si c'est 0,5, ben est-ce qu'on ne peut pas l'améliorer? On perd de notre influence lorsqu'on arrête de se remettre en question sur notre façon de faire les choses, de dire les choses, d'exercer le ministère, l'Église, notre vie chrétienne, et de prendre des risques. Est-ce qu'on peut prendre des risques? Et je sais que vous en prenez. Moi, je trouve lancer des ballons avec un texte dedans, mais moi, je prie que ce soit chaque grain. Je priais quand j'ai su ça tout à l'heure en arrivant. Je dis, Seigneur, fais que ce soit comme un grain de sel qui tombe, paf, la personne tombe. Ah, c'est bon, je clique, je regarde, j'ai le code, j'ai un message, là, j'ai une nourriture spirituelle. Yes! Prenons des risques. Puis si ça ne marche pas, ne nous obstinons pas pour dire, ah, mais dans tel livre, dans tel endroit, ils font ça, puis ça marche. Nous, on continue, c'est ça qu'il faut. Non, si ça ne marche pas, on passe à autre chose, c'est tout. On essaye autre chose. Essai, erreur, ce n'est pas grave. Vous connaissez la définition de la folie? Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Ça, c'est un de mes mentors qui nous disait au collège biblique. Alors, ce n'est sûrement pas lui non plus qui l'a inventée, je ne sais pas. Mais je vous la communique. La définition de la folie, c'est faire les mêmes choses de la même façon en espérant obtenir un résultat différent. Faire les mêmes choses de la même façon en espérant obtenir un résultat différent. La phrase qui tue, parce qu'on est dans cette aspiration à vouloir un impact dans notre génération, évidemment, on ne peut pas dans une soirée tout couvrir, l'idée c'est de passer au scan, voir comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment, mais la phrase qui tue l'influence positive de l'Église, c'est celle-ci. Ça fait 30 ans qu'on fait ça comme ça. Ou dit différemment, « Ah, mais ici, pasteur, tu sais, on a toujours fait ça comme ça. Ici, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. » Et des fois, il faut que je me retienne pour dire, « Ah, ben je comprends pourquoi ça fait 30 ans que ça n'avance pas. » C'est dur ce que je dis, mais c'est un peu vrai quand même. Ça, ça tue. Ah, mais ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on a cette activité, ce programme, cette réunion, ce projet. Ça fait 30 ans que c'est comme ça. Ça fait 30 ans. Ben oui, ça fait 30 ans. Ben oui, ça fait 30 ans que la majorité des églises à Genève et partout, là, je suis au Pays de Gex, c'est pareil, en francophonie, ça fait 30 ans que y a la majorité, pas tous, mais la majorité des églises n'arrivent pas à franchir le plafond du 150 personnes, 80, 30 ans. C'est maintenu. Moi, ça fait 30 ans que j'ai, ça fait 20 ans que j'ai quitté, mais je recule à 30 ans, donc 10 ans avant que je quitte. Puis les églises, en règle générale, c'est dur ce que je dis, mais des fois, on a besoin d'un électrochoc. Les églises, en général, sont à peu près à la même croissance. Décès inclus, déménagement inclus. Là, je me dis, Seigneur, il y a un truc, là. Il y a un truc qui ne marche pas, là. On est le sel et la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Et mon cœur saigne, comme Rocky sortait, mon cœur saigne. Seigneur, tu peux. On a le Dieu de la résurrection, on a le message le plus excellent. Pour parler en termes commerciaux, on a le produit le plus parfait à communiquer. Il est gratuit en plus. Et nos églises ne sont pas remplies. Je ne parle pas de grandir l'église pour la grandir, mais il n'y a pas plus de gens sauvés. Seigneur, je continue. Je reviens à ça. Être des disciples, former des disciples. Et depuis quelques années, mon aspiration, ma façon de voir et de faire le ministère est beaucoup plus axée sur je prends du temps avec une, deux, trois personnes, puis je vais investir. Je vais investir. Parce que j'ai 49 ans et demain je peux décéder ou peut-être dans je ne sais pas combien de temps, mais je ne suis pas éternel. Je veux investir. Tout ce que je sais, tout ce que je connais, tout ce que j'ai appris, même ce qui est mauvais, ça, tu vois, fais pas ça. Ici, et là vous dites, ouais, mais ça va, t'es pas ça. Ici, là, Est-ce que tout le monde vient à l'église ici? Presque. Oui. Mais j'ai aussi quelque chose pour ceux qui ne viennent pas, si vous ne venez pas. Mais ici, là, je connais un peu les visages, vous avez tout ce qu'il faut pour investir. Et sûrement que tu as déjà commencé, mais continue, lâche pas, tu es sur la bonne voie. Tu fais exactement ce que Dieu veut que tu fasses. Trouve-toi une personne, que tu sois jeune, âgé, peu importe, toute l'expérience. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme en théologie pour communiquer ce que tu sais sur Jésus, sur son caractère, sur encourager les gens. Nous n'avons pas besoin et on peut former, on peut se mettre avec quelqu'un et former des gens. Former des gens autour de nous. Je vais avancer. Jésus appelle son Église à faire preuve d'un leadership qui est incarnant. Et là, c'est évidemment qui n'est pas indifférent, mais qui est branché, qui a la puissance de l'Esprit, la puissance de l'Évangile, mais qui a cette ampoule avec, oui, les doctrines, oui, la parole de Dieu, oui, les bonnes œuvres sont là, préparées d'avance et dans lesquelles on rentre, mais il y a un équilibre, ça fait du bien. C'est ce qui nous appelle à être, à incarner notre génération. À arrêter d'avoir peur. J'ai envie de dire que la vie de milliers de personnes en situation de crise spirituelle commencera à changer lorsque la priorité ne sera plus, là c'est la diapo d'avant, lorsque la priorité ne sera plus la croissance de l'Église, mais celle de Jésus en nous. La vie de milliers de personnes en situation de crise spirituelle commencera à changer lorsque la priorité ne sera plus la croissance d'une église, d'une étiquette, d'un bâtiment, mais celle de Jésus en nous. Et Dieu sait que, je vous l'ai dit, j'aspire à voir les églises en croissance. Je l'ai dit tout à l'heure. Je ne suis pas en train de me contredire. Je suis en train de dire simplement que ça, ce n'est pas la priorité. La vraie priorité, c'est que Jésus doit prendre plus de place dans ma vie, dans ma façon de faire, dans ma façon de parler. Et là, l'église va grandir. Et je ne peux pas inspirer les autres si j'ai perdu contact avec ma source d'inspiration. Je ne peux pas me permettre de banaliser le péché. Je ne peux pas me permettre de ne pas cultiver la Bible dans ma vie. Je ne peux pas me permettre de laisser mes engagements pris pour Jésus. Et j'arrive à la fin de ce message avec cette question, parce qu'il y a quand même une question qui est posée, qui n'est pas répondue dans le texte. Et là, j'ai eu comme un moment, quand j'ai lu ce texte, j'ai dit « Waouh, yeah, j'avais jamais vu ça ». Vous allez dire « Il était temps que tu le réalises », mais bon, mieux vaut tard que jamais. Soyez indulgents, remplis de compassion pour mon ignorance. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Et c'est dans Jean, si je ne me trompe pas, Jean 9, dans le contexte, il va guérir quelqu'un, Jean 9, verset 4, Jésus va dire, il faut que je fasse, pendant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler, mais pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant. C'est comme si c'était en train de dire, c'est pendant. Après ça, c'est fini. C'est comme si on peut enchaîner les deux versets. Maintenant, vous êtes, il passe le flambeau. Et là, je reviens à la question, je me dis, mais Seigneur, si j'ai perdu ma passion, ma saveur, mon intégrité, avec quoi la salera-t-on? C'est foutu. Oh, techniquement, tu ne peux pas redonner. Et oui, il est la lumière du monde, mais on sait qu'il est la lumière de tous les temps. Il est lumière, il est vie. Alors là, je peux en lui, si tu as perdu ta saveur, si tu as perdu ta soif, ta passion, tu peux en lui retrouver, j'aimerais dire, qu'il est possible parce que nous avons le Dieu de la résurrection, le Dieu de la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la mille et unième chance. Qu'on tombe, il nous relève, tombe, il nous relève, tombe, il nous relève. Va, cours dans ses bras, cours dans sa présence. Seigneur, j'ai perdu, j'aurais pas dû parler comme ça, j'aurais pas dû faire ceci. J'ai laissé ta Bible de côté, j'ai banalisé des choses que j'aurais pas dû. Seigneur, je te demande pardon, viens et va dans sa lumière et tu vas te remettre à briller comme quelqu'un qui revient de vacances des îles Moukmouk avec le bronzage. Pourquoi? Parce qu'il s'est exposé à la lumière du soleil de la plage. Il arrive à Genève dans notre grisaille, il dit « Wow, la belle vie, hein, mon ami ?» C'est bon les vacances. Mais c'est ça, lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, il dit « Wow, petite jouvence spirituelle ?» Yes! Donc ne soyons pas dans le désespoir, dis mais je suis foutu. Non! Jésus est vivant, Jésus veut nous ramener, veut nous raviver, il veut redonner ce feu, cette soif, cette passion, cette joie dans nos vies afin de donner envie à ceux qui sont autour de nous et que les gens arrivent à l'église, entendent un message qui est sérieux, qui est véritable, qui est concret, qui est pertinent, où il y a de la joie aussi, on peut rire aussi, puis tu as le goût de revenir la prochaine fois parce que tes enfants, ils ont été rencontrés en bas et puis là, tu parles à ton voisin, le voisin, la voisine et je veux voir cette génération de cette ville de Genève. Je veux nous voir premièrement, nous, chacun, chaque croyant, chaque chrétien, comme un pinceau de couleur, le sel de la terre, la lumière du monde, comme un pinceau de couleur qui arrive et dans son quotidien, pas dans une convention XY, un méga ralliement, non, dans le quotidien, dans un rond-point, à quelque part, dans ton travail, à la machine à café, dans un monde de grisaille, puis amener de la couleur. Je veux voir des gens autour de nous qui, à notre contact, wow, Ah, il est parti en vacances, je m'ennuie parce que ça fait du bien quand ce collègue ou cette collègue-là est au travail, ça fait du bien. Ah, t'es revenu, ah, ça fait du bien parce que quand t'es là, il y a de la joie, quand t'es là, il y a de la paix. Je veux voir ce monde retrouver la couleur et la joie de vivre grâce à Jésus en nous. Et c'est ce que ce monde attend. Il y a quelques semaines en arrière, j'étais présenté à la mairesse de Prévesin parce qu'ils n'ont jamais eu de pasteur là où j'étais. Alors, c'est comme un révolutionnaire, surtout le genre de gars que je suis. Imagine le choc, toi. Et là, on parle avec la mairesse, puis dit, la question c'était, parce qu'il y a à peu près bientôt 100 000 personnes au pays de Gex. Il dit, comment vous faites pour répondre aux besoins des familles éclatées, le niveau de suicide est aussi haut que Paris, deuxième cause de mortalité dans le pays de Gex. Puis elle me pose la question, une bonne catholique, pratiquante, croyante, comment vous faites? Je lui explique, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je lui explique, on a des ressources ici, cela. Mais en fait, elle est en train de me dire, comment vous faites pour redonner de la saveur à ceux qui ont perdu le goût de vivre? Comment vous faites pour amener de la lumière à ceux qui ne voient pas le bout du tunnel? Comment vous faites? Et entre les lignes, elle disait, sa question était logique, rhétorique, mais très logique, parce que logiquement, c'est ça qu'une église devrait faire. Puis les politiciens, ça fait leur affaire de voir une église qui prend leur place dans les œuvres sociales parce que c'est tout ce qu'ils n'ont pas besoin de faire et d'investir financièrement. Non, mais c'est vrai. Les gens à l'extérieur s'attendent à ça. Alors, Jésus peut redonner cette saveur. Et j'ai un ami qui, vous êtes le sel de la terre, si ce sel perd son... Il a lu comme ça, il y a la version Pierre, c'est un ami avec qui je partageais ça, le prochain verset, pour répondre à la question. Vous allez voir, c'est celle où il y a le texte en jaune. Vous l'avez vu tout à l'heure? Voilà. Il a lu comme ça, il dit, mais oui, c'est vrai ce que tu dis, regarde si on change quelques lettres. Vous êtes le sel de la terre, et si ce sel perd son sauveur, avec quoi le sauvera-t-on? J'aimerais inviter les musiciens à venir, et j'aimerais juste qu'on puisse arrêter. Je sais que j'ai parlé un bon bout, je suis désolé, je vous demande pardon. Non, non, c'est sincère, c'est même pas ironique. Non, je suis sincère. Je réalise que ça peut sonner comme érotique. Non, non, je suis vraiment sincère. Je sais que j'ai pris un peu du temps, mais je vous l'ai dit, c'est un message qui brûle sur mon cœur. Un message qui, pour moi, c'était difficile de le recevoir, de l'entendre. C'est même difficile de le communiquer. Mais je crois que c'est important. J'aimerais dire, tu peux pas... Peut-être que tu es là, tu es en cheminement spirituel. Puis dans ta vie, tu es peut-être là pour la première fois, puis tu dis, c'est quoi cette histoire? On est où là? En fait, j'aimerais juste te dire, dans notre cœur, on a tellement réalisé que Jésus n'est pas une religion. Il a tellement amené de couleurs, de saveurs et de lumière dans nos vies qu'on aimerait faire ce qu'il a fait pour nous, pour toi. Essentiellement, c'est Jésus qui a tout fait pour toi parce qu'il a donné sa vie à la croix. C'est simplement ça. Et j'aimerais simplement te dire, tu ne peux rien changer à ta situation tant et aussi longtemps que tu cherches la solution dans quelque chose plutôt que dans quelqu'un. Tu ne peux pas trouver la solution ailleurs que dans quelqu'un. Parce que la question c'est, avec quoi la salera-t-on? Avec quoi lui rendra-t-on sa saveur? Avec quoi? Il n'y a personne qui a répondu dans ce verset. Quand j'ai lu ça, c'est vrai que ça m'a frappé. Puis en fait, la réponse n'est pas avec quoi. La réponse est, Seigneur, j'ai la réponse. Yes! Je veux une médaille. Je veux une petite étoile. Seigneur, je sais comment. Mais non, on ne peut pas. Je viens te le dire avec quoi. C'est non, je sais, Jésus, je sais. C'est pas avec quoi, c'est avec toi. C'est pas avec quoi, c'est avec toi. T'as raison, Jésus, je ne peux pas avec mes œuvres, avec mes offrandes, avec mon caractère où j'essaie de... Allez, je prends les bonnes résolutions, je me discipline, je fais ce qu'il faut, je me lève plus tôt pour avoir un bon caractère. Oui, ça aide, mais ultimement, je peux faire toutes ces choses-là, mais ça ne sert à rien tant que je cherche la solution dans quelque chose, dans une œuvre, dans... C'est toi, Jésus, c'est toi. Remplis-moi de toi, je veux venir à toi. Seigneur, je t'aime trop, j'ai trouvé la réponse. Viens, Seigneur, viens. Prends-moi dans tes bras, je veux bronzer. Et si tu es là pour la première fois, c'est tout ce qu'on veut. On veut te faire bronzer. Spirituellement. On veut que tu retrouves goût à la vie. On veut que tu ressortes de ce lieu en disant, je pensais qu'il n'y avait aucune solution pour moi. Mais il y a quelqu'un qui m'aime, Jésus. Puis en plus, ce Jésus-là vit à travers chaque personne, avec toutes ses imperfections, avec tous ses défauts, avec toutes ses faiblesses caractérielles. Mais il y a plein de gens ici qui sont concernés pour moi parce qu'ils aiment Jésus. Et malgré toutes les imperfections de leurs faiblesses, ils veulent m'aimer le plus proche possible comme Jésus. Seigneur, je prie de nous conduire à te ressembler encore plus. On veut te demander pardon pour les fois où, avec des bonnes intentions, mais on dérape parfois. On s'obstine dans des choses qui n'ont pas plus d'impact. À nous satisfaire de ce qui ne devrait pas être satisfaisant. Seigneur, je te prie de nous remplir de toi. On ne veut pas, Seigneur, voir les églises remplies pour mettre un chiffre sur des statistiques ou dire nous, on a compris. On veut surtout que tu prennes la place qui te revient, beaucoup plus de place dans nos vies. Viens croître en nous. Viens croître en nous, Seigneur Jésus. Et s'il y a quelqu'un ici qui est là pour peut-être la première fois ou la deuxième ou qui est dans un cheminement, je te prie, Père, montre-lui que tu veux être son Père aussi, son Sauveur, que tu l'aimes inconditionnellement. Peu importe son passé, peu importe ce qui a été fait, peu importe sa fiche, peu importe, tu l'aimes. Tu as donné ta vie. Tu es mort sur cette croix pour revivre dans celui ou celle qui ne t'a pas encore accueilli. Merci Seigneur pour la faveur qu'il y a sur l'église dont on est, pour toutes les œuvres qui se font, l'impact qu'il y a. Je sais qu'il y a un impact. Seigneur, je te demande de multiplier. De multiplier. De multiplier les ressources. De multiplier les résultats, de multiplier l'impact, de multiplier ta présence, Jésus. De multiplier ta liberté, de multiplier les dons, les talents, les appels, les disponibilités de temps. Multiplie, 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 Jésus. Amen.